Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
On est dans le cadre d'une série de messages qu'on a commencé la semaine dernière. Déjà, vous saluez à tous et à toutes. Soyez vraiment les bienvenus ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous encourage. On vient de passer toute une semaine de prière. Et le Seigneur a vraiment béni d'une manière particulière. Et sincèrement, le message de ce matin boue sur mon cœur. Je sais que ça concerne énormément de gens. Le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à ça. Et je vous demande d'avoir vraiment une attention vigilante à ce qui va vous être partagé ce matin. Je pense qu'il y a des solutions aussi pour vos vies, pour sortir de certaines difficultés dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Néanmoins, ce matin, le Seigneur m'a vraiment réveillé. J'étais dans un état, comment vous dire, prenez pas mal mes mots, mais comme dans un état d'excitation spirituelle. Ça ne me fait pas toujours ça, mais ce matin c'était vraiment le cas. Et le Seigneur parlait à mon cœur de ce qu'il voulait faire ce matin. Aussi, je sais que tout est fait pour entraver ça, tout est fait pour bloquer son œuvre. Et j'aimerais prier avec vous avant d'aller plus loin, pour demander vraiment que le Seigneur nous aide, pour que tout ce qui pourrait bloquer dans notre cœur, dans le déroulé de ce culte, eh bien, le Seigneur puisse l'enlever par le Saint-Esprit, afin qu'on soit vraiment attentif à ce que Dieu veut mettre dans nos cœurs et qu'on dispose nos vies à recevoir ce que Dieu veut mettre à l'intérieur. Vous savez, avant de mettre des choses, souvent, il en enlève. Je ne sais pas si vous avez des choses qui sont là et qui vous gênent, mais j'aimerais ce matin que vous puissiez permettre au Seigneur d'ôter ce qui doit être ôté et de pouvoir y mettre ce que lui veut y mettre. C'est vraiment une bénédiction que Dieu veut répandre dans vos cœurs ce matin et j'aimerais qu'on puisse prier avant toute chose. Père Céleste, tu vois, ta parole va être annoncée ce matin. Et je te prie de disposer les cœurs et les vies à recevoir, Seigneur, tout ce qui va être partagé, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, et ta parole, je sais qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir porté son fruit dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, tu es celui qui agit par le Saint-Esprit. Et encore ce matin, je te prie, Seigneur, eh bien, d'interpeller, Seigneur, nos âmes, nos consciences. Seigneur, de nous amener dans une réflexion profonde. Seigneur, peut-être dans des remises en question. En tout cas, dans une attitude de réceptivité. Nous voulons recevoir ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et nous voulons te laisser agir dans nos vies. Seigneur, trouve dans nos cœurs un terrain préparé, Seigneur, à ton activité, à ton action, Seigneur. Retire toutes les résistances. Tout ce qui pourrait bloquer en nous et autour de nous, Seigneur, vient susciter un intérêt renouvelé dans nos cœurs pour ta parole et pour ton action dans nos vies. Je te prie pour tous ceux qui sont là ce matin, pour tous ceux et toutes celles qui n'ont peut-être pas pu se joindre à nous. J'ai une pensée pour Isabelle, pour notre sœur Fémie qui est en quatorzaine avec ses enfants. Vraiment, encourage nos sœurs et tous ceux qui sont retenus à la maison. Seigneur, vraiment que ta bénédiction se répande ce matin et que l'œuvre de Dieu puisse se faire et à Jésus-Christ soit toute la gloire. Amen. Vous lire un premier texte dans la parole de Dieu, c'est dans l'évangile de Luc. On est toujours dans ce passage de Luc au chapitre 2, du verset 40 au verset 52. Il est écrit « Or l'enfant, il est parlé de Jésus, croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Poursuivons donc notre série sur le temple au cœur de notre foi, et plus particulièrement selon l'angle de la relation entre Jésus et le temple, selon ce que le Nouveau Testament porte à notre connaissance. Ainsi, après avoir partagé la dernière fois sur le passage concernant Jésus bébé au temple pour sa consécration, nous allons nous fixer ce matin sur celui qui concerne Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans. Dans le passage que nous étudions aujourd'hui, nous retrouvons donc Jésus âgé de 12 ans, et ce n'est certainement pas un hasard si Luc va se focaliser sur cette période particulière de la vie de Jésus. En effet, 12 années après sa présentation au temple, nous retrouvons Jésus lors d'un moment fort et significatif de son histoire. Je ne sais pas si vous avez des moments forts et significatifs de votre histoire. J'espère que vous n'en avez pas que des mauvais, mais que vous en avez aussi des bons. En tout cas, nous devrions tous avoir des moments forts et significatifs dans notre histoire spirituelle. Je parle de ces moments qui ponctuent notre parcours de foi. Des moments importants. Bien évidemment, le jour peut-être où vous avez accepté le message du Christ dans votre vie, où le Saint-Esprit a travaillé votre cœur afin que vous vous disposiez à recevoir ce que Dieu faisait retentir à vos oreilles, son appel et son amour. Et puis peut-être le jour où vous êtes décidé à vous engager, à passer par les eaux du baptême. Tous ces moments de notre vie spirituelle sont des moments forts qui parcourent et qui ponctuent notre parcours de foi comme autant d'étapes indispensables qui viennent comme jalonner notre chemin. Des moments où parfois tout bascule et nous atteignons enfin le rivage où Dieu nous attend dans une nouvelle dimension de la vie spirituelle. Vous savez, ces moments où, tels des naufragés, au milieu des éléments déchaînés, nous pouvons enfin atteindre, grâce à la dernière vague d'adversité, le rivage. Et on se dit, c'est bon, je suis arrivé sur la plage du repos divin. Question que je vous pose ce matin, c'est: constatez-vous des progrès dans votre vie spirituelle? Quand je parle de jalons et d'étapes, au travers des moments forts que nous vivons, tous ces jalons et toutes ces étapes sont là pour nous permettre de constater la croissance, le progrès dans notre vie spirituelle. Et parfois, c'est bon de regarder derrière soi, pas comme quelqu'un de nostalgique, mais comme quelqu'un qui peut arriver à faire le point sur sa vie et se dire « Ok, merci Seigneur, parce que j'ai avancé, j'ai progressé dans ma vie spirituelle. » Si ce n'est pas le cas, stagnez-vous. Êtes-vous comme bloqué dans votre avancée avec Dieu? Ou êtes-vous pris dans un courant contraire qui vous éloigne de Dieu? Donc la question qui se pose, c'est: si oui, quelles sont les forces d'opposition qui influencent votre vie? Quelles sont les forces d'opposition qui influencent votre vie? Qu'est-ce qui concrètement fait la guerre à votre vie spirituelle? Qu'est-ce qui lutte contre la volonté de Dieu dans votre vie? Qu'est-ce qui vient faire obstacle à ce que le plan parfait de Dieu s'active dans votre vie? La première chose, et je sais que là ça va taper, c'est le pouvoir de la tradition. Dans Luc chapitre 2, versets 41 et 42, c'est dans la traduction Parole vivante, il est dit que les parents avaient l'habitude de se rendre chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand Jésus eut 12 ans, ils montèrent comme de coutume pour la fête. comme de coutume. Et pour la première fois, il est rajouté dans cette traduction que Jésus les interpellait. Et ce qui m'interpelle, moi, dans ce passage, c'est que Joseph et Marie montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Dans ce verset, le mot « coutume » vient d'un mot grec qui se dit « ethos », qui parle d'usage, de prescription de la loi ou encore de rite. C'était rituel, c'était la coutume. On y allait, c'était l'habitude. Il fallait y aller parce qu'il fallait y aller. Et monter à Jérusalem lors de la fête de la Pâque était pour Marie et Joseph, comme pour beaucoup d'autres, une coutume. Et lorsqu'on est imprégné par des coutumes, on ne se pose même plus la question pourquoi on fait les choses. On les fait pour les faire. Parce qu'il faut les faire, parce que c'est la tradition, parce que c'est la coutume. On ne capte même plus le sens de pourquoi on fait les choses. Pourquoi tu montes à la Pâque? Peut-être que si on avait arrêté les pèlerins montant à Jérusalem et qu'on leur avait posé la question, mais pourquoi tu montes à Jérusalem pour faire la fête de la Pâque? Mais pourquoi tu vas faire la fête de la Pâque? Mais parce que tous les Juifs font la fête de la Pâque. Et c'est tout. Ben oui, il faut y aller. On doit s'y rendre. Selon la tradition, selon la coutume, nous devons y aller. Ok. Nous faisons ces choses parce que nous pensons qu'il est convenable de les faire et parce qu'on les a toujours faites. Mais je vais te dire une chose, c'est pas parce que tu as toujours fait les choses qu'elles sont convenables. C'est pas parce que tu as toujours fait les choses ainsi que tu les fais bien. Pourtant, notre spiritualité... Quand notre spiritualité bascule dans ce que j'appelle le ritualisme, eh bien cela va rendre insipide notre relation à Dieu et nous conduire à vivre une vie de parodie, une parodie de spiritualité, nous faisant passer à côté du principal. Lorsque je suis dans le rituel, lorsque je suis dans l'habitude, lorsque je suis dans la tradition, je ne suis pas dans la relation avec Dieu, je suis dans une parodie de spiritualité. Je ressemble à un chrétien, mais réellement ce qui bat dans mon cœur ne vient pas rendre témoignage à la réalité de la foi que je professe. Nous éprouvons un réel confort à ne rien changer, n'est-ce pas? Nous avons tous des coutumes et des usages rituels qui sont comme autant de traditions dont nous sommes imprégnés. Réfléchis bien ce matin. Si dans ta vie, il n'y a pas des choses qui sont comme... des rituels, des coutumes. Nous sommes conditionnés par des automatismes, plus ou moins inconscients et profondément enfouis en nous, dont il est bien difficile de se débarrasser. Bien difficile. C'est vrai qu'il est plus facile de rester enfermé dans nos vieilles habitudes, dans notre routine. Vous savez pourquoi ? Parce que nos routines et nos habitudes, elles nous sont familières. Elles sont réconfortantes. Elle nous sécurise de la manière la plus infantile qui soit. Vous savez, c'est comme l'enfant tous les soirs, là. Il a besoin de faire son rituel avant de pouvoir s'endormir. Ça le sécurise. Il a besoin de regarder sous son lit s'il n'y a pas un monstre. Il a besoin de ranger ses bibelots au bon endroit. Il a besoin d'avoir sa petite histoire. Surtout, il a besoin d'avoir la prière avec ses parents. Et parfois, dans notre vie spirituelle, on a nos petites routines, c'est-à-dire les choses qui sont là et qui sont faites un peu pour nous rassurer. Mais comme c'est infantile, en réalité. Oui, nous éprouvons un réel confort à ne rien changer. C'est pourquoi beaucoup restent à l'intérieur de leurs limites, au sein de leur zone de contrôle, à l'abri du qu'en dira-t-on de la pression sociale et de l'influence qu'exercent les autres sur nous. Alors les jeunes ne peuvent pas prier parce que leurs parents sont là. Ils n'osent pas se mettre à genoux pour prier Dieu parce que les parents sont là. Les parents n'osent pas dire des choses parce que leurs enfants sont là. On se met en gêne les uns les autres. La pression sociale qui nous entoure, les choses qui sont là nous empêchent d'être cœur à cœur avec Dieu en faisant l'abstraction de cette pression. La vraie pression qui en nous devrait prendre toute la place, ce n'est pas la pression parentale. C'est pas la pression du pasteur qui est là. Ah, il y a le pasteur. Écoute voir, si tu en es à craindre le pasteur, c'est pas le pasteur, il n'est pas dit qu'il faut avoir la crainte du pasteur, il faut avoir la crainte de Dieu. Et la vraie pression que tu dois avoir dans ton cœur, c'est celle que le Saint-Esprit met dans ta vie. Et si tu ne laisses pas le Saint-Esprit mettre la pression dans ta vie, mais alors c'est quoi toutes les pressions qui t'empêchent d'entrer dans ce que Dieu veut ? Qui exerce une influence sur toi, qui te paralyse, qui t'empêche d'aller rejoindre le Seigneur en cœur à cœur, dans son intimité ? Pire encore, la coutume nous fait croire qu'il suffit de suivre certaines règles pour recevoir la récompense qui s'y rattache. On pense que de faire un certain rituel, bingo, au bout, tu as le droit à ta récompense. Dieu, il applaudit, ah c'est bon, tu as fait ton petit rituel, tu as fait tes prières, tu as fait tout ce qu'il fallait, maintenant tu as le droit à ta récompense. Vous ne trouvez pas que c'est pas ce que Dieu attend de nous ? Nous pensons que la coutume qui nous amène à suivre certaines règles, eh bien, va déboucher sur la récompense. Mais dans de telles perspectives, il n'est évidemment plus question d'une spiritualité basée sur l'amour et la spontanéité. On est sur le calcul, sur le fait de pouvoir extorquer à Dieu des choses parce que, Seigneur, tu sais, j'ai fait ce que je devais faire. Donc, à toi maintenant de faire ce que tu as à faire. On est dans une espèce de deal avec Dieu. On n'est pas dans une relation d'amour où on se donne et où Dieu, en retour, se donne évidemment aussi. On mesure et on s'étonne que la bénédiction dans notre cœur est elle aussi comme mesurée. Dieu dit, mais c'est tout ce que tu as à me donner, un rituel terne où tu te contentes de suivre étape 1, étape 2, étape 3. Tu crois que je prends plaisir dans cela ? Imaginez une relation avec votre époux ou votre épouse qui serait tous les soirs la même avec le petit 1. Tous les jours, il te dit la même chose. Et puis après, une fois qu'il a fini le petit 1, il passe au petit 2 jusqu'au petit 3. Et tous les jours, c'est la même chose. La relation est sans cesse la même. Oh, quel ennui ! Oh, quel ennui ! Moi, j'aimerais dire aux maris, surprenez vos épouses et aux épouses, surprenez vos maris. Cassez la routine, cassez l'ennui du couple. Parce que parfois, là aussi, il y a de l'ennui, il y a de la routine. Payez-vous un restaurant, faites-vous plaisir, allez-vous promener le long de la mer, ça ne coûte rien si vous n'avez pas d'argent. Mais cassez la monotonie, passez du temps en prière avec Dieu, dans une vraie relation d'amour l'un avec l'autre, en entrant dans la présence de Dieu ensemble. Il y a de belles choses à vivre dans nos familles et dans nos couples. Dans de telles perspectives, il n'est évidemment plus question d'une spiritualité basée sur l'amour et la spontanéité, mais d'une tradition religieuse traduisant une profonde immaturité dans la foi. Et on pourrait dire que là, l'idolâtrie est encore bien présente. Rien dans notre texte de Luc ne nous dit que Marie et Joseph étaient dépourvus d'une foi sincère, d'une relation vivante avec Dieu. Mais ils s'inscrivaient cependant dans la coutume qui les conduisait chaque année à revivre la même chose dans les mêmes conditions. Sans cesse faire la même chose obtiendra toujours les mêmes résultats. Et la manière dont tu t'inscris dans ta vie chrétienne, si tu penses que ta vie chrétienne n'est pas ce qu'elle devrait être, peut-être faudrait penser à la manière dont tu la vis, cette vie chrétienne. Dans la manière dont tu fais les choses, de la manière dont tu t'investis dans cette vie chrétienne. Est-ce que vraiment tu es à cœur à 100% avec le Seigneur ? Seulement cette année-là, il y eut un gros bouleversement dans le programme des festivités. Et je bénis Dieu quand il vient bouleverser notre programme de festivité. Et ce jour-là, il y a un gros bouleversement. Cette année-là, Jésus était avec eux. Pour se rendre à Jérusalem à environ 3 ou 4 jours de marche. Oui, pour aller adorer au temple, il fallait mettre 4 jours à pied. 120 km. 40 km en 3 jours. Ça fait 120 km. Vous imaginez ? Marcher avec Jésus est le bon moyen de briser la routine qui étiole notre foi. Les disciples de Jésus vivent libres de toute tradition. Et là, j'aimerais entendre. Amen. Les disciples de Jésus vivent libres de toute tradition. Ils ne sont pas captifs du passé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont attachés au Seigneur. Ils ne sont pas rattachés à leur passé. Ils sont rattachés au Seigneur. Combien j'ai vu des chrétiens, des chrétiennes, commencer à faire des progrès et puis arriver à la limite d'élasticité de leur bretelle, vous savez, qui est attachée là, au passé. ils arrivent et ah là ça devient dur, la vie chrétienne, et ouh, ils repartent en arrière. Comme s'ils retournaient sans cesse au point de départ. Toujours comme attirés vers les choses qui sont derrière eux. J'aimerais te dire ce matin, c'est le jour où tu peux couper tes bretelles. Où tu peux arrêter, grâce à Dieu, d'être la victime rêvée d'un passé mal digéré. Il y a des choses comme ça qui, dans nos vies, devraient ressortir. On ne devrait pas les tolérer, les supporter. Certains sont comme dans une indigestion spirituelle. Les chrétiens ne sont pas captifs du passé parce qu'ils sont attachés au Seigneur. Mais ils ne sont pas pour autant des progressistes qui sont sans cesse en recherche de nouveautés. Parce qu'il y a le déséquilibre de l'autre côté. Nous devrions nous attendre à ce que Jésus nous attire dans de nouvelles choses qui toutefois ne remettent jamais en question les fondements de notre foi et de la parole de Dieu. Son objectif consiste à nous libérer du poids de la tradition qui sclérose nos vies et nous empêche de porter du fruit. Avec Christ, le fait d'être émondé, c'est entrer dans la nouveauté. Dans la nouveauté. Écoutez bien, dans Matthieu chapitre 15, versets 2 à 9, il est dit, pourquoi tes disciples, on parle à Jésus là, transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus leur répondit, et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu ? Là, ce n'est pas la tradition des anciens, c'est le commandement de Dieu. Ou comment la tradition peut cacher le commandement et faire en sorte qu'on déroge au commandement pour autant qu'on est attaché à la tradition, tout va bien. Pourquoi vous, vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère ». Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister, t'aider, est une offrande que j'ai réservée à Dieu. Eh bien, celui-là n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère qu'il meure de faim, puisque j'ai dit que ça c'était réservé à Dieu. Mon père et ma mère n'ont rien à manger, mais c'est pas grave. Mon offrande, c'est pour Dieu. Hypocrite. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Un vrai disciple mature est celui qui va différencier les préceptes basés sur les commandements d'hommes et ce qu'est en réalité la volonté de Dieu. Parce que vous savez, entre la tradition et la volonté de Dieu, il y a un fossé énorme. Comme celui qui différencie, vous savez, la simple amitié de l'amour le plus profond. Vous faites la différence entre une simple amitié et l'amour le plus profond ? Eh bien, c'est la même différence entre la tradition et la vraie foi. Tu ne dois pas juste être un ami du Seigneur. Tu dois être dans une relation d'amour profond avec lui. De l'amour le plus profond et le plus sacrificiel qui soit. Entendez-vous ici la question répétée trois fois par Jésus dans Jean 21-27 ? Simon, fils de Jonas, mets ton prénom ce matin. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu ? Est-ce que tu m'aimes ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu me poses une question, mais en réalité, tu as déjà la réponse, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Paix mes brebis. Il a fallu que le Seigneur lui pose trois fois la question pour qu'il réponde enfin avec son cœur. C'est à la troisième fois que Pierre a compris ce que Jésus voulait dire et qu'il a enfin ouvert son cœur. Oui, Seigneur, tu sais tout. Et quand on sait comment la vie de Pierre a continué après, on sait quel était l'amour qu'il avait pour Christ. Quelle était l'intensité de l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Combien de fois le Seigneur ce matin doit-il venir te poser la question pour qu'enfin ton cœur dise réellement ce que tu penses, ce qui s'anime au-dedans de toi? Les disciples de Jésus ne sont pas appelés à vivre au sein d'une réglementation qui légifère leur vie et leurs moindres gestes. La tradition des hommes, la tradition des anciens, c'était quoi? C'était le Talmud, qui vous disait tout ce qu'il fallait faire dans les moindres détails de votre vie, comme un règlement à suivre. L'apôtre Paul écrira donc 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si à Jérusalem, il y avait des croyants animés d'une foi vivante, d'autres n'étaient pas là parce qu'ils étaient pour eux convenables, d'autres n'étaient là, pardon, parce qu'ils étaient convenables pour eux d'y être ni plus ni moins. Ce qui les animait, ce qui les avait mis en mouvement jusqu'à Jérusalem, c'est « il faut y être ». On doit y être. Il y avait à Jérusalem une effervescence religieuse impressionnante au moment de la fête de la Pâque. Et j'imagine la caravane des gens de Nazareth arrivant par le nord de la ville et ne passant pas très loin du mont Golgotha. Sans doute que Joseph, en chef de famille, tirait l'un de ses meilleurs agneaux pour pouvoir le donner en sacrifice pour lui et sa famille. Sincèrement, quelle formidable image que celle de la famille de Jésus apportant un agneau pour le sacrifice de la Pâque à Jérusalem. Jésus est là. Il monte à Jérusalem, il a 12 ans. Joseph tire l'agneau pour le sacrifice et il passe tout à côté du mont Golgotha. Vous le voyez le symbole ? Vous le voyez, le symbole ? Il y a évidemment dans ce passage une dimension prophétique qui n'échappe pas à notre compréhension. Mais pourquoi Luc va-t-il mentionner et s'attarder précisément sur cette Pâque-là ? Pourquoi Luc s'arrête là ? Pourquoi Dieu a conduit cet évangéliste à pointer cet événement ? Pourquoi il s'attache à ça ? C'est simplement parce qu'elle était déterminante pour Jésus, comme elle l'est pour toi ce matin. Il y a quelque chose d'important que tu dois saisir. Ce jour-là, c'était tellement important pour Jésus d'être à Jérusalem. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Verset 42, quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent, comme de coutume pour la fête. En effet, à 13 ans, là Jésus il a 12 ans, mais à 13 ans, les jeunes garçons juifs deviennent responsables par rapport à la loi de Dieu. À cet âge, ils entrent dans ce que l'on considère comme étant la majorité religieuse et donc plus généralement dans leur vie d'adulte par une cérémonie que les juifs appellent la bar mitzvah, qui signifie aussi le fils de la loi ou de l'alliance. Et il est aussi intéressant de savoir que les deux Pâques qui précédaient la bar mitzvah d'un jeune garçon sont particulièrement importantes pour préparer un jeune garçon à ses responsabilités devant la loi de Dieu. Et Jésus, comme tous les autres garçons de son âge, était donc à la frontière entre sa vie d'enfant et sa vie d'adulte. Vous voyez où j'arrive ? Jésus était à la frontière entre sa vie d'enfant et sa vie d'adulte. Et si nous avons vu Jésus la dernière fois enfant lors de sa présentation dans le temple, nous le voyons maintenant juste avant sa bar mitzvah qui se fera donc l'année d'après. Jésus est à la frontière de sa vie d'adulte et l'année suivante il sera reconnu comme tel par l'ensemble des membres de sa communauté. Mais Jésus s'en fiche des rituels et des coutumes. même s'il va les respecter, parce qu'il y a des consensus dans lesquels parfois il nous faut rentrer. Jésus n'était pas un révolutionnaire. À ce point de notre partage, laissez-moi vous questionner là où vous en êtes dans la foi. Vous préparez-vous à devenir un adulte? Et savez-vous comment cela se passe? Êtes-vous encore un nouveau-né spirituel? Est-ce que vous vous préparez à devenir un adulte? Et savez-vous comment on fait pour devenir un adulte spirituel? Eh bien, c'est précisément pour vous en montrer le chemin que je vous partage ce message ce matin. Pour vous aider à passer un cap. Dieu souhaite que nous passions un cap. Que se passera-t-il pendant les festivités de la Pâque cette année-là? Luc ne semble pas vouloir attirer notre attention sur le contenu de la fête. Luc ne s'arrête pas à la fête. Il ne parle pas de la Pâque, de ce qui se passe. Non. Il zappe la fête. Pourtant, ça durait 7 jours. Il reprend son récit au moment où Joseph et Marie s'en retournent à Nazareth après la fête. Il ne parle pas du tout de la fête. Luc 2,43 nous dit « Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent. » Et là, nous assistons presque à un récit dramatique par le simple fait que le couple ne s'aperçut pas que leur enfant ne faisait pas partie de la caravane du retour. En effet, au lieu de rentrer avec les autres, Jésus resta à Jérusalem. Joseph et Marie croyaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage, avec leur famille. Il fallut attendre la fin de la première journée de marche au bivouac du soir. Et où Jésus? Vous n'avez pas vu Jésus? Non. Jésus n'était pas là. Vous imaginez la panique? Ne l'ayant pas trouvé, ils vécurent sans doute une terrible nuit d'inquiétude. Après quoi, ils retournèrent dès le matin à Jérusalem pour tâcher de le retrouver. Est-ce que vous comprenez ce demi-tour? Parce que là, ils ont fait demi-tour. Il faut parfois revenir en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Oh non, je ne veux pas retourner en arrière. Ah mais seulement Jésus, lui, il y est resté. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, là. Toi, tu veux avancer, là. Mais voilà, tu as perdu Jésus. Il faut que tu puisses retourner là où Jésus s'est arrêté. Là où Jésus t'attend, lui. Il faut parfois retourner en arrière pour parvenir à aller de l'avant. Et le fait que Jésus soit resté en arrière n'était certainement pas un acte de désobéissance envers ses parents, ni le témoignage d'une profonde irresponsabilité de leur part. On va pas dire, ah bah dis donc, prévenons la CAF, hein, faisons un signalement. Ils ont lâché l'enfant, pouf, quels parents. Non, non. Pourquoi c'était pas une irresponsabilité les concernant? Et pourquoi c'était pas quelque chose de mal concernant Jésus? Jamais auparavant, ils n'avaient vu Jésus faire autre chose que ce qu'ils attendaient de lui. Jésus n'avait jamais désobéi à ses parents. Il était toujours là où on attendait qu'il soit. Il faisait toujours ce qu'on espérait qu'il allait faire. Jésus savait que la fête était finie. Et les parents savaient qu'ils, soit il était avec un membre de la famille, soit des gens de Nazareth qu'il connaissait tellement bien. Jamais auparavant, Jésus n'avait fait autre chose que ce qu'ils attendaient de lui. Il était un enfant profondément responsable, obéissant, sensible, plein de sagesse et réfléchi. Notre Seigneur, tandis qu'il était enfant, était déjà dans une perfection sans péché. Il est dit dans Luc 2,40, « Or l'enfant croissait et se fortifiait. » Il était rempli de sagesse et la gloire, la grâce de Dieu était sur lui. Jésus était le rêve de tous les parents. Jusqu'à ce que Jésus échappe à leur vigilance. Jésus avait-il fait une fugue ? Cet événement, comme tous les autres, n'échappa pas à la souveraineté de Dieu, vous savez. Mieux encore, il était là pour marquer une transition. Voilà pourquoi Luc mentionne cet épisode clé de la vie de Jésus et cet épisode clé de ta vie, de ma vie, de notre vie. Car c'est précisément à ce moment que Jésus passa de la responsabilité envers ses parents terrestres à la responsabilité envers son Père céleste. Il est entré dans sa vie d'adulte. Il n'a pas attendu ses 13 ans. Il a un peu bouleversé la tradition. L'apôtre Paul écrira dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, c'est normal, je raisonnais en enfant, mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, femme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Il n'y a plus de raison pour moi de continuer à me comporter comme l'enfant de mes parents. » Je suis devenu un homme, je suis devenu une femme, je me défais de ces fonctionnements-là qui sont en train de miner ma vie, qui me créent toutes sortes de problèmes relationnels dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mes relations aux autres et surtout dans ma relation avec Dieu. Si les parents de Jésus pensaient qu'il avait encore une année pour profiter de leur petit Jésus, quel ne fut pas leur étonnement quand au bout de 3 jours de stress, ils le trouvèrent assis dans le temple. Mais que faisait Jésus dans le temple ? Il n'était pas avec une bande de jeunes dans Jérusalem ? Il n'était pas en train de fréquenter non plus ? Ou ce qu'il fréquentait, c'était le temple ? La présence de Dieu. C'était ce qu'il cherchait, lui, la présence de Dieu. S'il était à Jérusalem, c'était pour la bonne raison. Et toi, ce matin, dans l'église, est-ce que tu es là pour la bonne raison ? Est-ce que tu es là pour la bonne raison ? Ok, nous avons bien vu qu'il s'intéressait aux choses spirituelles, mais n'est-il pas un peu trop pressé quand même ? Il n'avait que 12 ans, il est jeune. À 13 ans, il pourra rentrer dans les choses spirituelles, il deviendra majeur par rapport à la spiritualité. Mais là, il abuse. Jésus était assis au milieu des meilleurs docteurs d'Israël. Il voulait certainement entendre les points de vue de ses enseignants sur les Écritures et sur les prophéties messianiques le concernant. Le niveau de Jésus était si impressionnant que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Les questions et réponses de Jésus étaient profondes et sages, comme ses connaissances. Dépassait largement celle de tous les autres garçons de son âge. Jésus ne perdait pas sa jeunesse dans les vanités des révoltes adolescentes, en cédant aux convoitises et aux caprices de sa chair. Il était occupé et préoccupé par une seule priorité qui débordait et imprégnait tous les autres domaines de sa vie. Jésus n'avait pas une vie cloisonnée, avec des jardins secrets, des pièces sombres. Car Dieu occupait tout l'espace de son cœur par le Saint-Esprit qui agissait en lui. Il n'y avait pas une seule zone d'ombre dans le cœur de Jésus. Pas une. Tout son cœur était ouvert à l'action de l'Esprit. Le problème souvent dans nos vies, c'est qu'il y a des pièces fermées. Des jardins secrets. Des choses enfouies. Ce qu'il déclara plus tard à ses disciples était une réalité qui avait pris place dans sa vie dès son plus jeune âge. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Jésus, c'était l'objet de toutes ses recherches. Il cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu. Aussi, après des heures de recherche anxieuse, Joseph et Marie retrouvèrent l'enfant perdu. Et au bout du compte, je me dis, je ne sais pas qui était perdu.
sincèrement. Et quand ses parents le virent, ils furent étonnés de le retrouver tranquillement assis dans le temple en train de dialoguer avec l'élite des enseignants de Jérusalem. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur l'échange édifiant quelque peu étonnant et bouleversant qui va avoir lieu entre Jésus et sa mère. Écoute bien ça, s'il te plaît, ce matin. Marie, particulièrement anxieuse comme l'aurait été n'importe quel parent, compte tenu des circonstances, était à la fois soulagée de le retrouver, mais elle était aussi contrariée. Comment tu peux être soulagée et contrariée? Vous arrive-t-il d'être contrarié quand Jésus ne fait pas ce que vous attendiez de lui? N'était-il pas juste que cette maman reprenne son fils tellement inconscient? T'es inconscient. C'est vrai que Jésus semble parfois totalement en déphasage avec notre actualité. Si c'était ton fils, tu dirais, ah, qu'est-ce qui plane ce petit? Ah, il est totalement en déphasage. Et parfois, on a Jésus comme ça dans notre vie. On se dit, mais il est totalement déphasé avec ce que je vis, quoi. Il semble paisible dans la tempête. Et il se met en colère, on en parlera la prochaine fois, devant des choses qui ont l'air sans importance. C'est pourquoi Marie va dire à Jésus, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Pourquoi t'as agi comme ça avec moi, Seigneur? Tu te rends pas compte de ce que je vis? Tu te rends pas compte de mon anxiété? Tu te rends pas compte de mon mal-être? Seigneur, pourquoi t'agis comme ça avec moi ?» Sa question était destinée à culpabiliser Jésus. Faut qu'il comprenne, ce petit, hein? Alors je vais le culpabiliser. Comme s'il avait fait exprès de faire souffrir ses parents. Elle poursuivit alors en déclarant à Jésus, pour bien lui faire comprendre la leçon, « Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » On a fait une journée de marche, puis après dans la ville, on t'a cherché aussi pendant une journée, puis une journée pour aller dans l'autre sens. En fait, ça fait 3 jours qu'on est là en train de te chercher. 3 jours, 3 nuits. Non, mais tu te rends compte? Et toi, t'es là, t'es dans le temple, tranquille. Sincèrement, est-ce que vous pensez que Jésus était un rebelle? Mais bien sûr que non. Il n'a pas délibérément défié ou heurté ses parents. Il a agi de la sorte afin de rendre évidente la nécessaire, et écoutez bien, et imminente rupture entre lui et sa famille terrestre. Écoutez bien. Comme il le dira plus tard dans Jean 6,38, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas là pour faire la volonté de mon Père qui est sur la terre, de celui qui m'a en quelque sorte adopté, reconnu comme son fils, Joseph. Je ne suis pas là pour faire la volonté de ma mère, Marie. Je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire mon Père dans le ciel. Et même si cette rupture ne se concrétisa pleinement que 18 ans plus tard, lorsque Jésus va entrer dans son ministère, elle est rendue évidente ici. Il y a un épisode de la vie de Jésus que beaucoup ne font que frôler des yeux. Permettez-moi d'éclairer un peu les choses. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de votre propre famille sur vous? Au sein de nos familles, nous avons traversé de puissants événements, des circonstances parfois douloureuses. Notre famille est le groupe le plus puissant d'influence auquel nous appartenons. Et même ceux qui ont quitté la maison en tant que jeunes adultes bien déterminés à faire une coupure par rapport à leur histoire familiale, s'aperçoivent rapidement que le fonctionnement de leur famille les suit où qu'ils aillent. C'est toujours là en eux. Ils ont fui la famille, mais ils continuent à se comporter comme le fils ou la fille de la famille. Il n'y a pas de rupture, il y a juste de l'éloignement pour essayer d'anéantir un peu la souffrance. Mais les choses sont toujours intactes dans ton cœur. Comme si le pli avait été pris. Ainsi, nous pouvons constater que ce qui se passe dans une génération se répète souvent dans la suivante. Les conséquences des actes et des décisions prises au cours d'une génération vont affecter celles qui suivent. D'ailleurs, il y avait un proverbe en Israël. Vous savez ce qu'on disait ? Dans Ézéchiel 18:2, les pères, ils ont mangé des raisins verts et c'est les dents des enfants. Vous avez déjà mangé du raisin pas mûr ? Les pères ont eu des comportements immatures, ils ont croqué dans l'amertume, dans l'immaturité, et c'est leurs fils qui ont payé, c'est leurs filles qui ont payé. Voilà le proverbe qui était dans tout Israël. Ça n'a rien de très biblique, c'était un proverbe qu'on se passait les uns aux autres. Les tensions familiales, les rivalités dans les fratries, les conflits internes nous ont souvent profondément marqués. Profondément. Ainsi, les modèles familiaux du passé se rejouent dans nos relations présentes, comme au sein de nos couples. Sans même que nous en soyons nécessairement conscients, parfois. Alors vous me direz, ah ouais, ok, là tu nous en mets, hein, c'est sympa les constats. Comment effacer les effets négatifs de notre histoire ? L'histoire familiale vit en nous tous. Notre histoire familiale, elle vit en nous tous, et spécialement en ceux qui consciemment ou inconsciemment l'ont enterrée. Le prix à payer pour être délivré est parfois lourd, car seule la vérité nous en libère. Oui, il faut affronter la vérité sur les situations. Le prix à payer pour en être délivré est parfois lourd, car seule la vérité nous libère. Certes, elle fait remonter des souffrances qu'on aimerait fuir ou enfouir. Mais Dieu souhaite cautériser les plaies qui demeurent purulentes et conditionnent toutes nos réactions. C'est pour cette raison que Christ va dire dans Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère, ou sa culture ou d'autres influences importantes, ou les traditions de son église, plus que moi, il n'est pas digne de moi. » Jésus sait que nos familles sont imparfaites. Il sait aussi que nos relations et motivations pour aimer sont brisées à cause du péché. Indépendamment de notre culture, de notre pays d'origine, de notre éducation, de notre classe sociale, de notre âge, les messages précoces et les scénarios adoptés de notre histoire influencent puissamment nos relations présentes et nos comportements, ainsi que la manière dont nous nous pensons et de la manière dont nous nous voyons. Quel message ou mensonge avez-vous reçu en tant qu'enfant ? En quoi cela influence-t-il votre manière d'éduquer vos enfants, votre conception des rôles de l'homme et de la femme, votre vision du mariage ou du célibat? En quoi cela vous fait réagir aux marques physiques d'affection? Ou encore plus, généralement, comment votre famille voyait-elle Dieu et en quoi ça conditionne votre foi aujourd'hui? C'est quoi la relation de Dieu à ta famille ou la relation de ta famille à Dieu? Et en quoi aujourd'hui, dans ta foi, ça résonne encore? Il est essentiel de réfléchir aux messages qui nous ont été laissés et de les soumettre à Christ et à sa parole. Réfléchissez aux commandements de votre famille et de quelle manière ils vous ont affecté. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Comment ça a affecté votre vie spirituelle, votre couple, votre famille et toutes vos relations aujourd'hui? Notre histoire a profondément formater notre vie courante et ignorer l'influence de notre passé sur notre vie présente peut nous coûter très cher. C'est pourquoi Dieu souhaite que nous quittions nos familles comme il souhaite que les Israélites quittent l'Égypte. Écoutez bien. Je ne parle pas de quitter en brisant les relations, mais en remettant en question tous les fonctionnements, ou plutôt les dysfonctionnements. Car nous voyons dans la Bible que si les Israélites avaient physiquement quitté le pays d'Égypte, une bonne partie de la culture égyptienne et de la façon de penser de ce pays était restée en eux. De la même façon, nous pouvons choisir de suivre le Christ, mais en réalité, nous continuons à suivre les commandements et les règles que nous avons intériorisées dans nos familles d'origine. Quand les scénarios invisibles de nos familles d'origine sont contraires à ceux du Christ, vous ne trouvez pas que ça pose un problème ?
Ben oui.
Et lorsque les commandements familiaux qui nous sont légués sont profondément intégrés en nous, nous ne pouvons même plus faire la différence et le résultat peut être tragique. L'évangile du Christ devient un évangile profondément frelaté par nos traditions familiales, voire même notre culture d'église. C'est plus l'évangile de Jésus, c'est l'évangile modifié par ma famille, version corrigée, révisée. J'ai intégré à ma vie chrétienne les principes de ma tradition familiale. J'ai rajouté. Vous me direz, les constats, c'est bien, mais tu ne nous as toujours pas dit comment sortir de toutes ces choses. La grande nouvelle du christianisme, et là vous pouvez dire amen, c'est que votre famille d'origine ne détermine pas votre futur. Non ! C'est Dieu qui détermine votre futur. C'est pas votre famille. Avec Dieu, nous pouvons vivre un changement radical. Grâce à la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. Rappelez-vous que la mère et les frères de Jésus vinrent lui parler, tandis qu'il enseignait ses disciples bien plus tard. Jésus, ta mère et tes frères te réclament. Et Jésus va répondre à la foule qui est assise à ses pieds. Mais qui sont ma mère ? Et mes frères, en promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, mais voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Pour le croyant, l'Église est maintenant sa première famille. Je ne dis pas qu'il faut abandonner physiquement votre famille. Ne plus aller voir vos parents. Je dis qu'il faut que vous sortiez de l'imprégnation familiale. Dans le monde antique, du temps de Jésus, il était extrêmement important d'honorer son père et sa mère. C'était un commandement. Jésus l'a démontré alors même qu'il était pendu sur la croix. Il confia le soin de sa mère à l'apôtre Jean. Pourtant, Jésus était clair et direct en appelant les gens à la fidélité première envers lui, avant leur famille biologique, en disant dans Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Et être disciple, par conséquent, c'est abandonner les comportements et les habitudes marquées par le péché de nos familles biologiques. Et être transformé pour vivre comme des membres de la famille du Christ. C'est ça la vie chrétienne. L'intention de Dieu est que nous croissions pour devenir des hommes et des femmes matures, transformés par la présence intérieure du Christ. Nous honorons nos parents, notre culture, notre histoire, mais nous obéissons à Dieu. Oui, j'honore mes parents. Oui, j'honore l'histoire qui est la mienne. Oui, j'honore ma culture, mais j'obéis qu'à Dieu. Et si Dieu me dit, moi d'abord, j'obéis à Dieu. Si Dieu me dit, ils ont tort, alors je ne les suivrai pas dans leurs erreurs. Je me démarquerai au nom du Christ. Chaque disciple doit regarder maintenant les ruptures et les péchés de sa famille et de sa culture. Le problème, c'est que peu d'entre nous ont réfléchi honnêtement à l'effet produit par leur famille d'origine et les autres séismes majeurs de leur histoire. Savez-vous que l'intention de Dieu est que notre Église soit un endroit où, lentement mais sûrement, nous soyons rééduqués selon la manière de vivre de Christ. L'intention de Dieu est que notre nouvelle communauté soit un endroit où nous sommes libérés. Et pour cela, il nous faut reconnaître la réalité que nous apportons tous dans notre nouvelle communauté, notre ancienne manière de vivre et de tisser les relations avec les autres à l'égyptienne. Parce que même dans l'Église, on continue à fonctionner comme on fonctionnait avant. On marche à l'égyptienne. Nous sommes encore parfois tristement influencés par l'Égypte au lieu de nous occuper des affaires de notre Père et de son royaume. Alors j'en conclus, la vraie rupture pour devenir mature. Je veux que vous soyez des hommes faits, des hommes matures, des chrétiens mûrs. Que vous passiez du lait à la nourriture solide. J'ai des choses à vous confier. Arrêtez de vous complaire dans l'immaturité en n'acceptant pas de remettre en question certaines autorités qui ont influencé votre vie de la pire manière qui soit. Luc 2, 49. Pourquoi me cherchiez-vous, va dire Jésus à sa mère. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et la réponse de Jésus est non seulement le cœur de ce passage, mais elle exprime aussi la réalité suprême de toute la foi chrétienne. Car c'est la première fois qu'un individu prétend que Dieu est son père à titre personnel. D'ailleurs, c'est un blasphème chez les juifs. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Nul avant lui n'avait eu l'audace de prétendre que Dieu était son père au sens personnel et intime. 12 ans. Par cette confession, Jésus affiche clairement que sa priorité consiste à faire la volonté de son Père céleste. Et la question que je te pose ce matin, Dieu est-il ton Père et l'est-il avant tes propres parents? C'est à ça que tu dois répondre. C'est à ça. Jésus prend position face à ses parents. Il effectue lui-même la rupture du dernier morceau du cordon ombilical qui pouvait encore le relier à sa mère. C'est fini maintenant. Et à ce titre, il se positionne sous l'autorité de son Père céleste et non plus sous celle de ses parents terrestres. Est-ce que vous comprenez la portée des paroles de Jésus en ce qui concerne votre propre vie et les liens familiaux qui y perdurent et vous lient puissamment, vous entravent puissamment, vous amènent à avoir des comportements immatures dans vos relations aux autres et dans votre relation avec Dieu? À vous débattre, voire plus à combattre, au lieu d'entrer dans l'humilité qui précède la gloire. Tu réagis toujours comme si tu étais son fils ou sa fille. Parce que devant toi, ils réglaient leur conflit de quelle manière, tes parents? De quelle manière le débat était au sein de la cellule familiale? De quelle manière les problèmes étaient traités? Quel était le rapport à l'argent? Quel était le rapport à la sexualité? Quel était le rapport chez tes parents à toutes ces choses? Et en quoi ça influence encore ta vie aujourd'hui? Comment ton père voyait les femmes? Comment ta mère voyait les hommes? Tu ne crois pas que ça a un impact sur toi? Tu ne crois pas que ça te joue encore des tours aujourd'hui? Comment tes parents voyaient les gens d'une autre nationalité? Ceux qui n'avaient pas la peau de la même couleur? C'est normal qu'un chrétien porte toujours cet héritage dans sa vie? Continue avec cette manière de penser? Mais d'où ça vient? Pourquoi ce n'est pas remis en question encore toutes ces choses? Pourquoi on est encore bloqué? Retourne à Jérusalem, Jésus t'attend dans le temple. Il est là pour t'aider à comprendre qu'il faut qu'il y ait une rupture dans ta vie. Joseph et Marie ne comprirent pas pleinement toute la profondeur de ce que Jésus leur disait. Ils saisissaient qu'il était le Messie, le fils de David, conçu dans le sein d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Cependant, le sens plein de sa filiation divine leur échappait complètement. Attendez-vous à des incompréhensions, vous savez, je vous préviens. Et des stratégies de manipulation et de chantage affectif de la part de vos familles. Le cordon, là. Wouh, wouh. Ils vont faire un lasso, là. S'ils peuvent te choper, ils vont te choper. Luc 2, 50 à 52, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Si le temps de Jésus n'était pas encore venu pour s'affranchir totalement de l'autorité de ses parents,
Je prie afin que vous puissiez bien comprendre que vous avez bien plus que 12 ans, vous. Jésus, à 12 ans, il fait la rupture avec ses parents. Toi, tu as bien plus de 12 ans, non ? Et il t'engage à le faire. Tel est le premier accomplissement de l'avertissement de Siméon à Marie dans Luc 2, 35, sur lequel se clôturait notre premier message. Et Marie avait de quoi méditer sur sa réponse stupéfiante de Jésus. Il fallait qu'elle prenne conscience que son fils était son sauveur. Qu'elle aurait à changer l'autorité parentale qu'elle avait sur lui contre l'autorité divine qu'il avait sur elle. Mais oui, Jésus, c'est plus ton fils. Maintenant, c'est ton sauveur. Il est le fils de Dieu venu pour te racheter de tes péchés, Marie. C'est fini l'autorité que tu as sur lui. Maintenant, il faut que tu acceptes qu'il ait l'autorité sur toi. Il faut que tu acceptes de laisser tomber ce lien qui n'est pas bon, Marie. Parce que là, c'est à l'opposé. C'est pas nous en tant qu'enfants avec nos parents, mais c'est aussi nous en tant que parents avec nos enfants. Parce que parfois, il y a des parents, franchement, ils ressemblent beaucoup à Marie. Hein. Ils ne veulent pas lâcher. Hein. Et c'est ainsi que le glaive commença à transpercer le cœur de cette maman. Lorsque Jésus mit de la distance dans sa relation humaine avec elle. Et vous savez que pour finir, le glaive lui transperça le cœur lorsqu'elle regarda son fils souffrir et mourir sur la croix. Christ aussi est mort pour nous. Et l'épée de sa parole doit aussi transpercer notre cœur. Afin de nous libérer des liens familiaux malsains, toxiques, qui nous empêchent d'être réellement libres et de devenir matures. Des hommes et des femmes à l'image du Christ. S'il avait écouté sa mère, vous savez ce qu'elle pensait, Marie, de lui ? Il est devenu fou. Il déraisonne. Quand elle est venue le chercher avec ses frères, c'est parce qu'elle pensait qu'il était fou. Vous savez ce qu'on va faire ? On va le faire interner parce que là... La bonne maman qu'elle était en face de ses impossibilités, de ses incapacités. Elle ne comprenait rien en réalité. De qui était Jésus ? Et parfois, il faut supporter qu'on n'ait pas compris dans notre foi, dans notre démarche de foi, et dans ce que cela entraîne. Alors arrête de jouer le mauvais rôle au sein de ta famille. Parce que plutôt que d'aider à résoudre les conflits, tu es en train de les creuser. Parce que tu ne prends pas position. Dans nos vies, nous devons prendre position. Nous sommes des chrétiens. Et prendre position, oui, ça réclame du courage. Oui, ça réclame de pouvoir affronter ce qui arrive. Mais quand la vague est passée, on se secoue un peu, on se recoiffe. Et oh, quelle joie de voir qu'en fait, elle n'a rien détruit, mais elle a tout reconstruit. Tout reconstruit. Et s'il est un temps pour arracher et pour détruire, dira Dieu au prophète Jérémie, il y est un temps pour bâtir et pour reconstruire. Puisse Dieu te faire entrer dans ses faces dans ta propre vie, afin que tu puisses passer à l'étape de la reconstruction, de l'inauguration, à l'étape de la joie après les larmes, là où tu pourras dire, parce que j'ai suivi le Christ, j'ai choisi la bonne part qui ne me sera jamais ôtée.